Chapitre 23. Elle reste quelques instants sans pouvoir parler. Elle se rappelle le jour où elle les a forcés à la laisser entrer aux Fields. Larry Foyle et Weeds avaient des t-shirts sales. Ils transpiraient et puaient la sueur. Et puis, Brian Shay, la peau mouchetée de particules crayeuses, lui avait affirmé qu'il avait aidé aux travaux de rénovation dans la maison de Marty. Une masse était posée contre une caisse à outils sur la terrasse à l'arrière. Brian était outré parce qu'elle était allée chez lui pour interroger sa femme au sujet de la disparition de sa fille. Il avait été menaçant. Il lui avait lancé une cigarette. Il avait insinué qu'elle était une mauvaise voisine. Il avait pris un air indigné. Et pendant tout ce temps, le corps de sa fille était étendu à 5 ou 6 mètres d'eux dans une cave. Brian Shay, avec qui, à l'époque du lycée, elle avait eu des relations sexuelles aussi moites qu'inintéressantes dans la chambre à coucher de sa mère à lui. Brian Shay, en faveur de qui Dukie avait glissé un mot alors qu'il n'était qu'un jeune homme qui cherchait à se faire du fric et essayait de se faire engager dans la bande de Marty Butler. Brian Shay, à qui Dukie avait prêté de l'argent et avait été obligé de courir partout après lui pour se faire rembourser. Brian Shay, qui était présent à la fête qu'ils avaient organisée pour le baptême de Jules. Il était venu chez eux. Il avait mangé à leur table. Il avait bu leur bière, leur alcool. Cet enculé de Brian Shay. Pourquoi vous pleurez ? George Dunbar, le dos appuyé contre la Nova, l'observe avec un regard vague et endormi.
Je pleure ?
Elle tamponne le dessous de ses yeux avec le talon de la main. Il ne l'entend même pas. Il flotte déjà de nouveau. Elle s'accroupit près de lui et claque des doigts devant son visage.
« Est-ce que tu l'as vu ?»«
Qui ?»«
Jules. »«
Quand ?»«
Quand tu as refait le sol de la cave. »«
Quelle cave ?»«
Celle de Marty. »«
Non, non, non. On... » On a apporté le béton rapide. C'est le truc qu'ils auraient dû utiliser dès le départ. Du béton avec du sable. De la bonne camelote, ça sèche vite.
Il baisse la tête, semble s'endormir. Elle le gifle. Il rouvre les yeux en sursaut, son regard croise celui de Mary Pat. Tu n'as vu Jules à aucun moment?
Non, non, elle... Je veux dire, il y avait un trou dans le sol, et il avait été rebouché. Et après, ils ont coulé le mauvais mortier par-dessus. Alors ils ont cassé tout le mauvais ciment, et on est venu, et on a coulé le béton rapide, et c'est là qu'elle est.
Sous le béton.
Il ne répond pas, il recommence à somnoler.
Elle le gifle une nouvelle fois. George, est-ce qu'elle est sous le béton ?
Ouais, c'est là qu'elle est.
Ses paroles sont maintenant devenues une bouillie de mots mal articulés.
C'est là qu'elle est.
George, dit-elle avant de le perdre, est-ce que quelqu'un vient ici, dans ce garage, à part toi ?
Il sourit et fait rouler sa tête sur ses épaules. Personne sait que c'est là.
Personne ?
Personne est au courant. Dit-il en mangeant la moitié de ses mots.
S'il s'aperçoit qu'elle l'attache avec les menottes à la poignée de la portière, il n'a pas l'air de s'en émouvoir. Elle s'installe sur la banquette arrière de la Nova et s'endort. Quand elle se réveille, il fait une chaleur du diable là-dedans. La porte métallique du garage servant de conducteur pour les rayons du soleil qui la martèle de l'autre côté. George fait du raffut en agitant ses menottes sur la poignée de la voiture. Elle regarde sa montre. 2h30. L'héroïne commence à disparaître de la circulation sanguine au bout de 6h. George est juste dans les temps. Elle fait passer la ceinture de sécurité derrière le dossier du siège passager. Elle délivre George et le conduit à l'avant. Puis elle le force à s'asseoir sur le siège. Il pousse quelques grognements, lui demande ce qu'elle fait, mais elle l'ignore. Elle doit tirer de toutes ses forces sur la ceinture pour que la boucle arrive au niveau de sa hanche, Mais une fois que c'est fait, elle parvient à glisser une extrémité des menottes dans le trou de la boucle du premier coup. « Tu sais ce que je n'arrive pas à comprendre ?» dit-elle. Il secoue la tête encore un peu dans le brouillard. « Toi et Brenda, vous ne donnez pas l'impression d'être ensemble. » C'est quelque chose qui la taraudait tandis qu'elle s'endormait à l'arrière de la voiture. « On n'est pas ensemble. » Elle ferme les yeux un instant, se demandant si elle atteindra jamais le fond des choses dans cette affaire. « Alors, si Rum servait de couverture pour Frankie Toomey, toi, tu servais de couverture pour qui ?»«
À votre avis. »
Dans la chaleur sombre et suffocante de la voiture, elle se tait un moment, puis... « Marty. » Il n'acquiesce pas, mais il ne secoue pas la tête non plus. Il se contente de soutenir son regard. « Et dis-moi, George, une dernière question. Leur histoire avec les filles, ça remonte à quand ?» Il prend une minute pour formuler sa pensée.
Franck s'amusait à dire que si on appelle la première année de lycée « freshman », c'est parce que c'est à cet âge-là que la chair est la plus fraîche.
C'est un des moments auxquels elle repensera par la suite, et elle se demandera comment elle a fait pour ne pas le tuer. Elle prend la direction du centre-ville avec George, toujours sur le siège passager. Qu'est-ce que tu sais sur la façon dont elle est morte ? George n'est pas dans son assiette et il est grincheux. Il n'arrête pas d'essayer de lever sa main menottée pour protéger ses yeux du soleil. Il essaie avec la main gauche, mais il y a encore trop de soleil pour une seule main. Frankie était en rogne parce qu'elle avait appelé chez lui après minuit et l'avait menacé de tout dire.
« Dire quoi ?»
Il lui lance un regard prudent. « Rum m'a déjà raconté qu'elle était enceinte. » Le tranquillise-t-elle.
« Bon, alors, ouais, c'est de ça qu'elle le menaçait. »
Mary Pat dévie de sa trajectoire et elle doit donner un brusque coup de volant pour éviter un taxi qui vient en sens inverse. Non pas à cause de ce que George a dit, mais à cause d'un fragment de souvenir du dernier jour qu'elle a passé avec Jules qui lui revient. Elle marchait dans Old Colony et Jules avait basculé dans cette étrange humeur sombre qui était devenue si exaspérante que Mary Pat lui avait demandé si elle allait avoir ses règles. À quoi Jules avait répondu « Non, man. Sûr que non. » « Elle essayait de me dire quelque chose, » pense Mary Pat. « Et je n'ai pas entendu. Je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu. Parce que je ne le voulais pas. Parce que la vérité fait mal. La vérité a un coup. La vérité bouleverse votre monde. »
Une manifestation anti-busing bloque l'accès au pont de Broadway et ils sont obligés de faire un détour. Tandis qu'ils suivent la déviation dans A Street, ils croisent des foules en marche vers le pont avec des pancartes anti-busing, des pancartes anti-Garrity, des pancartes anti-noir. Ils s'arrêtent à une intersection pour laisser traverser une longue file de manifestants.
Pourquoi il l'a tué ? Demande-t-elle doucement, surprise de constater que ces mots sont sortis de sa bouche parce que, en fin de compte, aucune raison ne pourrait être suffisante.
Elle voulait de l'argent pour élever son enfant.
Du fric, il en a tant et plus.
Ça veut pas dire qu'il a envie de le partager.
En plus, j'ai entendu dire qu'elle en réclamait un paquet. Elle disait qu'elle ne voulait pas élever son enfant dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles elle avait été élevée. Mary Pat essaie d'empêcher la grimace dans son cœur d'apparaître sur son visage. Et si elle n'obtenait pas d'argent ?
Elle allait dire à tout le monde que c'était l'enfant de Frankie.
Qui t'a raconté ça ?
Larry Foyle. Ça lui a foutu un coup. Il a dit que c'était pas bien. Il a dit « Alors, on tue des petites filles maintenant. »
Et toi ? Qu'est-ce que ça t'a fait ?
J'ai été très triste. Elle lui jette un coup d'œil. Il essaie encore d'éviter le soleil, baissant la tête sous sa main.
Non, tu n'as pas été triste, dit-elle.
Il soupire. Non, je l'ai pas été.
Est-ce qu'il t'arrive d'éprouver des choses, George ? Je me le suis toujours demandé.
Il fronce les sourcils en regardant son reflet dans la vitre.
Je me dis que c'est une belle idée, mais non.
Sincèrement, en dehors de ma mère, je n'ai jamais rien ressenti pour personne.
Au moins tu es sincère.
Il montre les manifestants, des retardataires maintenant, mais toujours assez nombreux, qui remontent à Street.
Regardez-moi ces pauvres enfoirés. Qu'il y ait des nègres dans les couloirs de Saucy High cette année ou non, vous avez déjà perdu tous autant que vous êtes. Les enturbanés viennent de nous dire qu'on pouvait aller se faire foutre et se mettre à la marche à pied en attendant qu'ils veuillent bien décider de nous livrer un peu de pétrole. Mais vous vous en prenez aux nègres qui sont aussi pauvres et autant dans la merde que vous, et vous vous persuadez que vous défendez quelque chose.
Les voitures repartent. Ils franchissent le carrefour juste au moment où le feu passe de l'orange au rouge.
Si tu t'en fiches complètement, George, pourquoi tu t'en es pris à Augie Williamson?
Il baisse la main et la regarde. Et le soleil baigne le côté de son visage d'un jaune cru qui tressaute et se réfracte tandis qu'elle continue à rouler.
Il était faible, répond-il. Ça se voyait dans ses yeux.
Peut-être qu'il avait juste peur.
La peur est une faiblesse.
Il lève de nouveau la main contre le soleil.
Je n'aime pas la faiblesse.
Peut-être que ce n'est pas de la faiblesse. Peut-être que c'est juste un cœur plein de bonté.
Il la regarde pour voir si elle est sérieuse. Une fois qu'il a décidé qu'elle l'est, il laisse échapper un rire comme un aboiement.
Eh ben dans ce cas, rien à foutre de tout ça.
Elle se tourne vers lui un instant et finalement, après toutes ces années, elle voit en lui.
J'ai compris maintenant. Ce n'est pas de la colère qu'il y a en toi, George. Il n'y a que de la haine.
Tous deux restent silencieux le temps de passer deux feux tricolores. Quand elle tourne dans Congress Street, Mary Pat dit
« Pourquoi ils ont gardé son corps ?»«
Hein ?»«
Si Frank Toomey a bien tué ma fille dans cette maison, pourquoi a-t-il laissé le corps sur place ?»«
La maison est sous surveillance. »
Il hausse les épaules. « En tout cas, c'est ce qu'on a dit à Marty. »
Surveillé par qui?
La DEA.
Comment il sait ça, Marty?
Il a quelqu'un au FBI.
Sans déconner.
Elle sent ses yeux s'agrandir en même temps qu'elle perçoit un petit sifflement involontaire s'échapper de ses lèvres.
Ouais, dit George. C'est pour ça qu'il est intouchable.
Elle retourne ça dans sa tête un moment.
On va où? Demande-t-il.
Je te conduis à ta marchandise?
Ah ouais?
Il ne la croit qu'à moitié.
On avait un marché.
Je remplis ma part.
Je n'ai pas promis que je ne dirais rien.
Tu veux dire à Marty? Sur le fait que je t'ai piqué ta marchandise?
Ouais.
Je sais que tu n'as rien promis. C'est pas grave, George.
Il semble ne pas bien comprendre. Nous y voilà, dit-elle. Et elle s'engage sur le pont de Congress Street, près du port. Il regarde le bâtiment en clin rouge qui donne sur l'eau, la passerelle qui descend jusqu'au port, le bateau jaune en bas de la passerelle.
Qu'est-ce qu'on fait ici?
Tu sais ce que c'est, ce bateau?
Ouais, répond-il sur un ton irrité.
Dis-moi.
C'est la réplique du navire.
Quel navire?
On est où, là? L'école primaire?
Fais-moi plaisir, George.
Il tourne vers elle ses yeux levés au ciel façon adolescente.
C'est la réplique du navire que les fils de la liberté ont envahi avant de balancer dans le port toute la cargaison de thé anglais en 1770 et des poussières.
Très bien, s'exclame-t-elle en lui serrant le genou. Et pourquoi ils ont fait ça, George?
Pour protester contre les taxes. Vous pouvez pas.
Pas contre les taxes, dit-elle. Contre les taxes sans représentation. C'était la partie essentielle, George. Ils payaient les Anglais,
mais les Anglais prenaient l'argent et ne faisaient rien pour eux. Alors ils ont balancé ce précieux thé anglais dans l'eau du port. Ce qu'il voulait faire comprendre, George, c'est « Si vous me prenez quelque chose, alors moi aussi, je vous prends quelque chose. » De son siège, il la regarde attentivement. « Ça veut dire quoi, tout ça ?» D'un mouvement du menton, elle désigne l'eau du port. « La drogue de Marty est là, George. »
Il ne saisit pas. « Sur le bateau ?»
Elle secoue la tête. « Dans l'eau. » La bouche de George s'ouvre pour former un grand O. Il regarde à travers le pare-brise et cligne des yeux plusieurs fois. Il y a des gens qui passent sur le trottoir à côté de la voiture, ignorant de la dévastation à l'œuvre à l'intérieur. George finit par retrouver la parole.
« Pas ça. Non. »
Sa voix est faible, implorante, et se brise sur le dernier mot. Je me suis mise au milieu du pont la nuit dernière.
S'il vous plaît.
George a les yeux rivés sur le port à travers le pare-brise. Et j'ai ouvert les sachets l'un après l'autre.
Vous. Arrêtez, murmure-t-il.
Et j'ai répandu tous ces comprimés et toute cette poudre dans l'eau. Il balbutie quelque chose.
Quoi, George?
Je ne t'entends pas, parle plus fort. Il émet un son qui se situe entre le grognement et le gémissement.
Je suis mort.
Sans ta drogue?
Je suis foutu.
Ouais, acquiesce-t-elle. Certainement. Posant le canon de son calibre 38 sur le ventre de George, elle se penche sur lui pour détacher les menottes de la ceinture de sécurité. Elle enfonce le canon un peu plus dans son abdomen, le regarde dans les yeux, le nez à seulement 1 centimètre du sien. Elle lui prend le poignet menotté et le fait passer devant eux deux pour l'accrocher au volant. Elle se rassied et remet le revolver sous son chemisier.
« Je te regarde maintenant, George. Et je vois un petit garçon qui a peur. Qui veut une seconde chance.
Mais on ne t'offre pas de seconde chance une fois que tu es adulte.
Pas par ici. En tant que mère, j'ai envie de te serrer dans mes bras. J'ai envie de te murmurer chut à l'oreille et te dire que tout ira bien.
Il la regarde affolée comme si, peut-être, elle allait faire ce qu'elle disait.
Alors, aidez-moi, Madame Fennessy. Je vous en prie.
J'aimerais beaucoup, George.
Vraiment.
Elle caresse l'arrière de sa tête et appuie son front contre le sien un moment. Quand elle parle, sa voix est bienveillante et maternelle. Seulement voilà. Voilà que je me rappelle que tu as vendu à mon fils la drogue qui l'a tué. Que tu as tué ce pauvre garçon noir qui voulait seulement rentrer chez lui. Et tu as aidé à enterrer ma fille dans une cave.
Elle écarte son front de celui de George. Ses yeux soutiennent son regard haineux.
Alors, crois-moi, je me fous complètement que tu meurs ce soir ou que tu vives l'enfer en prison. Je sais seulement que si je ne revois jamais ton visage, je considérerais ça comme un bienfait de Dieu lui-même.
Il s'entête à tirer sur les menottes qui l'attachent au volant, tandis qu'elle sort de la voiture.
Elle s'arrête à un téléphone public près du Tea Party Museum et compose le numéro sur la carte de visite qui lui a été donnée la semaine dernière. Il répond à la 3e sonnerie.
Inspecteur Coyne.
Elle lui dit où il trouvera George Dunbar, puis elle raccroche.